RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, dernière heure des GG. Nous sommes avec vous toujours au 32-16, l'avocat de Sarah Salman, Willy Schran, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, et Étienne Liebig, éducateur qui nous accompagne.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Dans un quart d'heure, le GG 7 et match, doit-on
sur... On va mettre une barre ici.
Attention.
Ah oui, tiens, non, mais c'est vrai, on pourrait faire du pole dance ici pendant...
Bah oui.
Entre deux débats.
Là.
On commence avec Willy.
Quelle serait la symbolique?
Pas là, on va la trouver.
Le divertissement, les gens c'est content, ce moment un peu de grâce qu'on pourrait.
La barre, ça va bien avec notre avocate, ça, oui.
Ah, pas mal.
Oh. Parce que les avocates comptent souvent là-bas. Bien.
À 11h20 tout à l'heure, on va s'intéresser au sommet des ministres des Transports qui a lieu au Luxembourg et la France qui va faire partie des pays avec l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique qui veulent la taxation des jets privés. Alors, faut-il taxer les jets privés? Un homme dit oui face au reste du monde. Il s'agit d'Étienne Liebig.
Comme d'habitude.
Le reste du monde,
c'est
Willy.
C'est le seul qui a un jet.
Sarah et Olivier.
Et qui se déplace que comme ça.
Mais oui, j'ai le même jet que j'avais à 8 ans et demi qu'on m'avait offert en mécano. Je l'ai gardé.
Un tout petit jet.
En attendant, on va... passer au à vous de choisir.
RMC les grandes gueules.
À vous de choisir.
C'est vrai que ça peut être l'enfer, peut-être souvent d'ailleurs à cause de la musique, pour les voisins qui habitent à côté des Airbnb et des locations, puisque c'est le sujet que vous avez choisi. C'est vous qui voulez qu'on parle de l'enfer pour
sujet.
Les voisins avec ces locations de courte durée qu'il peut y avoir en ville.
Oui, ce phénomène Airbnb, on le voit, déstabilise les centres-villes, alors des grandes villes touristiques, mais aussi des stations balnéaires. Et alors, il y a ceux qui défendent le principe du Airbnb, ça permet aux familles de louer leur logement. Généralement, c'est quand même la plus grande dépense des familles, donc grâce à ça, elles payent leurs charges, elles payent la taxe foncière, c'est un complément de revenus. Et puis, de l'autre côté, il y en a qui disent, bah oui, mais l'explosion des meublés touristiques, ça détruit l'offre de logement traditionnel, et si on n'arrive plus à se loger notamment dans le centre-ville, c'est parce que tous les logements sont des Airbnb. On voit même des immeubles entiers qui sont achetés pour être loués. Donc là, c'est vraiment un business. Donc il y a le business, mais il y a aussi quand même des familles qui louent leur logement, notamment pendant les vacances. Alors il y a des villes qui ont déjà réagi. La ville de Saint-Malo a instauré des quotas par quartier. Seuls 12,5% des logements peuvent être loués en meublé touristique pour des courtes durées dans la ville fortifiée. Le problème, c'est que beaucoup contournent et ne se déclarent pas et continuent à mettre en location leur logement. Il y a Annecy aussi qui est touchée par ce phénomène et qui va mettre un nouveau régime d'autorisation de meublé touristique avec des zones et par zone, tu pourras oui ou non louer ton logement. Et puis, il y a aussi des politiques qui réagissent et qui veulent refondre la fiscalité pour rendre les choses moins attractives. Est-ce que pour vous, c'est un cauchemar, le Airbnb, ou est-ce que c'est une solution pour se loger, à la fois pour les touristes, mais aussi pour les propriétaires?
Moi, je l'ai déjà subi quand j'habitais dans le 16e, et ça peut être vraiment l'enfer, parce qu'entre les valises qui arrivent le matin, ensuite, il faut quelqu'un pour donner les clés, donc c'est vraiment le bazar. On entend les valises qui arrivent, qui repartent. Il y a souvent des fêtes, il faut dire les choses, après ça doit dépendre, des odeurs de mégots, de shit, de je sais pas, enfin, autres. Et j'aimerais quand même attirer l'attention sur un autre point pour les gens qui prennent du Airbnb. Parfois, il y a des caméras posées dedans, on a vu plusieurs faits divers. Donc, je voudrais quand même attirer l'attention des gens là-dessus. Sinon, oui...
C'est légal ou pas?
Non, justement.
Ah non,
c'est des... bah non. Il y a des gens qui ont mis ça dans les salles de bain quand même.
Alors, il faut le signaler.
Bah, dans la salle de bain, enfin, excuse-moi.
Dans les salles de bain, non.
Oui. Enfin...
Non, mais tu peux dire que t'as mis une caméra, je sais pas, dans le salon pour...
D'accord.
C'est un peu intrusif.
Est-ce que t'as envie d'aller dans un Airbnb comme ça? Pas fondamentalement.
Non.
Mais en général, ça a été posé dans la chambre et dans la salle de bain.
Oui. Bah, c'est assez rare, quand même, si.
Bah, pas tant que ça, quand tu regardes les jurisprudences. En fait. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a beaucoup de dégâts dans l'appartement, Airbnb est très peu conciliant pour indemniser les propriétaires. Donc ça, c'est une autre difficulté.
Les propriétaires qui ont eu des mauvaises surprises.
Qui ont eu de très mauvaises surprises avec des additions très salées et Airbnb fait la sourde oreille face à ça. Donc oui, ça peut être l'enfer. Après, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Faut appeler la police qui peut mettre une amende, qui peut infliger une amende. Mais le problème, c'est que c'est au propriétaire de checker ce genre de choses. C'est même plus l'enfer à ce stade. C'est
cool. Étienne.
Mais en fait, au départ, l'idée est excellente. C'est-à-dire que ça permet à des gens de louer leur maison sur un temps court pour gagner un peu de sous quand eux-mêmes sont partis. C'était l'idée.
L'offre touristique.
Aussi. C'était l'idée absolument géniale. Sauf que tout ça est parti en vrille.
Non.
Et aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus. On est sur des. D'abord, on voit bien avec les boîtiers, etc. On est sur des logements qui sont loués. Par exemple, dans le Marais, puisque ça a été un endroit qui a été particulièrement Paris, étudié sur ce sujet par le maire du 4e arrondissement.
Il y a plus de logements à Airbnb que de vrais logements.
Alors, d'abord, ce sont des spéculateurs. Donc souvent, c'est même des fonds de pension étrangers qui ont acheté des immeubles entiers qui, plutôt que de le louer, le louent en Airbnb parce que ça rapporte
beaucoup
plus. On arrive à faire 800 000 euros de la semaine. Donc ça fait 4 000 balles par mois, un logement qui pourrait se louer 2 000. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour le propriétaire. Ensuite, on ne signe pas tous ces bails qui sont très pénibles et qui contraignent à garder. Donc, c'est extrêmement pratique pour le propriétaire. Donc, c'est même plus souvent des propriétaires, mais des organismes qui gèrent ça. Donc, c'est complètement dévoyé. Et alors, le premier sujet, bien avant ce que vous étiez en train de dire, c'est que ça tue littéralement, comme à Saint-Malo, parce que j'ai des copains malouins, ils vont se reconnaître, ça tue littéralement toute vie de quartier. Mmh. Parce qu'en réalité, les gens ne s'investissent plus du tout le quartier.
Mais c'est pas le sujet.
Leurs courses ne font plus. Mais si, parce qu'on est en train de parler d'Airbnb et de ses effets. C'est un des effets du Airbnb qui rend les quartiers complètement impersonnels.
Il y a une complicité des villes. Les villes sont assez ambiguës. À la fois, elles veulent effectivement limiter le phénomène, mais en même temps, elles remplissent leurs caisses avec ça.
Hein. Bah oui.
Et dans des villes touristiques, ça a quand même permis de faire venir les tourismes. Et il y a les taxes de séjour. Les taxes de séjour qui sont perçues. Donc les villes, moi, je les trouve assez ambiguës. À la fois, elles disent, il y en a trop, mais en même temps.
Paris n'avait pas besoin de ça. C'est la première ville touristique du monde.
C'est pas vrai. C'est faux ce que tu dis, je termine. Parce que Paris, je connais bien le dossier, c'est qu'il n'y avait pas assez d'hôtels à Paris. Il y a une capacité hôtelière. Et donc, le Airbnb a permis.
Mais bien sûr,
et la mairie de Paris est très contente de remplir ses caisses, notamment des caisses qui se vident un peu trop rapidement, par les touristes Airbnb.
Ça n'a pas fait baisser le prix des hôtels. Hein.
Ça a ramené les taxes de séjour.
Je veux dire un mot, on passe à la députée.
Le Airbnb ne s'est pas beaucoup développé à Bailly-Aime les Épernecs, je dois vous l'avouer. En campagne, on a très peu, ça, on ne connaît pas bien.
Non.
Y a un peu de gîtes, ça, c'est vrai.
Oui.
Bon, il peut y avoir des échanges de maisons, et ça, on connaît des gens qui vont habiter chez l'autre pendant le temps des vacances. Le Airbnb.
Très urbain.
C'est quand même très urbain.
Mais tu vois, par exemple, uniquement touristiques comme Venise, tu avais encore des Vénitiens dans le temps qu'ils vivaient. Aujourd'hui, Venise, ce ne sont que des Airbnb.
Par contre, j'ai utilisé une fois dans ma vie un Airbnb en allant à Rome. C'était pas un Airbnb à la base. C'était en fin de compte un hôtel. Tu arrives à l'hôtel, on te dit qu'il est plein, mais on va aller dans un annexe de l'hôtel.
C'est ça.
Ah. Alors que c'est pas du tout ce que tu as acheté.
Madrid, ça.
Et là, t'as compris ce qui se passe.
C'est Madrid, ça.
Et c'était à Rome.
Ah ouais.
Et là, tu te retrouves en fin de compte dans un Airbnb déguisé.
À Madrid,
où, à mon avis, l'hôtel doit posséder un nombre de logements. De logements. Il te dit, l'hôtel principal, vous verrez, c'est très bien. Et t'arrives dans un appart. Et tu te retrouves dans un appart. Et c'est comme
après,
ça.
Pour les propriétaires, ça permet d'éviter les impayés aussi.
Alors, nous sommes
mais là, c'est déguisé. C'est ce qu'on dit. Ça va pas.
Nous sommes avec la députée Anaïg Le Meur. Bonjour, députée Renaissance. Bonjour, madame la députée.
Bonjour.
Anaïg, comment ça va? Mais je te kiffe de ouf.
Bon, vous vous connaissez avec Sarah, alors?
A priori, oui.
Avec maître Salman. Alors, madame la députée, comment bonjour, agir sur les Airbnb, alors?
Bonjour, madame la députée.
Oui, déjà, bonjour, madame la députée.
J'ai pas entendu la question. Bonjour à tous.
Agir sur les Airbnb?
Agir est difficile sur les Airbnb, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a un nombre d'Airbnb qui s'est développé sur notre territoire, parce que c'était une nécessité. Il y a eu un moment où il en fallait, parce que l'offre hôtelière n'était pas suffisante, donc il fallait absolument les développer. À l'origine, c'était pas une volonté d'investissement, c'était un complément financier, et puis mettre à disposition une chambre chez soi, un temps limité, pour avoir un complément de revenus qui était important pour
le propriétaire. C'est bien ça d'ailleurs.
C'est plutôt bien sur le fond. Seulement, ça s'est développé de plus en plus.
Des abus.
Ça a complètement déséquilibré le système, c'est-à-dire que sur des territoires comme la Bretagne, il y a des villages où c'est devenu des villages vacances, où il y a 50% de Airbnb dans des villages. Ouais. Donc comment vous pouvez, en tant que maire, projeter une vie au quotidien, des écoles, le maintien des écoles, le maintien des commerces derrière. Enfin voilà, c'est tout ça qui en dépend. Donc on voit cet abus. Puis parallèlement, ça a créé quand même des tensions, notamment vis-à-vis des gens qui travaillent sur ces territoires et qui n'arrivent plus à se loger.
Oui, et puis il y a aussi des problèmes de voisinage, parce que les clients ne sont pas toujours très respectueux des parties communes, des gens qui vivent là l'année, ils font du bruit, des fêtes, etc. Il y a un décalage entre les gens qui vivent, par exemple, dans l'immeuble, avec des horaires voilà, de travail, d'école, et puis ceux qui viennent faire la fête.
Effectivement, c'est à vocation de tourisme. En plus, avec maintenant les nouveaux modes de vacances, où c'est plus des vacances qu'au mois de juillet et août, où maintenant voilà, on part à tout moment, parce que les 35 heures ont fait qu'on a développé en fait des courts séjours de vacances en faisant des week-ends prolongés, en prenant un RTT le vendredi. Du coup, ça a complètement décalé. Effectivement, ce sont des gens qui sont en défense, donc ils vivent tard, là, ils vivent la nuit.
Mais pourquoi ne pas changer la fiscalité? Parce que on a aussi, par la fiscalité, poussé les gens à aller sur des meublés touristiques. Et d'ailleurs, c'est difficile maintenant de louer un logement vide. On loue que des logements meublés maintenant.
Parce que ça dépend de la surface.
Parce que c'est plus intéressant fiscalement. Est-ce que vous ne pouvez pas refondre la fiscalité?
Eh ben, c'est ce que je propose avec une proposition de loi qu'on va faire avec mon collègue du Pays Basque, Iñaki Etxaniz. Donc, on va faire une proposition de loi transpartisane pour justement un des articles de la proposition de loi est de rabaisser les avantages fiscaux. Les avantages fiscaux, à force, dès que quand vous aviez un bien, vous pouviez avoir, dès lors que votre logement était classé, 71% d'abattement. C'est-à-dire que si vous déclariez 10 000 de gains, vous aviez 7 000 qui était retiré, vous payez des impôts que sur 3 000 euros.
Oui, oui. Madame la députée, pardon de vous couper, mais en fin de compte, vous allez par cette loi pénaliser les gens qui jouent le jeu, hein, alors qu'on sait que c'était un apport, une poire contre la soif financière pour beaucoup de ménages. J'entends ça. Pourquoi encore une fois passer par la taxation, qui est l'éternelle réaction de l'exécutif en France depuis toujours? Y a-t-il pas moyen de définir un cadre, une règle autre que, encore une fois, aller chercher de l'argent chez les gens? Alors, il y en a qui ont détourné le système, on a bien compris, mais vous allez d'abord et avant tout vous adresser à ceux qui ne l'ont pas détourné, pour qui ce système a été créé et qui en ont besoin. Donc moi je trouve dommage de repasser effectivement dans la taxation, dans la fiscalité. Y a-t-il pas moyen, Madame la députée, de trouver une autre solution pour modifier les règles et qu'elles arrêtent d'être dévoyées?
Il y a d'autres solutions, et notamment on propose, parce que c'est pas une proposition de loi avec un seul article fiscal. Effectivement, cet article fiscal, il est là pour rééquilibrer et pour rendre plus juste la fiscalité sur le territoire, parce que je suis désolée, quand vous louez à un salarié à long terme et que vous n'avez pas ces avantages-là, au niveau de l'équité vis-à-vis de l'impôt, je trouve pas ça juste non plus.
Par contre, il y a d'autres dispositifs. Si on dit par exemple, c'est uniquement votre maison principale et rien d'autre, ou limité en nombre de jours, en nombre de semaines,
et même en nombre
de jours par mois, vous ne pouvez pas dans ce cas-là entrer dans le cadre d'une location longue durée déguisée en Airbnb. C'est ce qu'il faut éviter. Mais pourquoi retaxer encore une fois?
C'est pas une taxe déjà, c'était un abattement. Donc c'est joué peut-être un peu sur les mots de ma part que de le dire, mais c'est pas une taxe, c'est juste un rééquilibrage. Et après, ça n'empêche pas de jouer, effectivement, comme vous dites, le nombre de jours c'est déjà fait, donc il y a déjà une limitation sur le nombre de jours.
Mais
c'est une
limitée
comme ça à Saint-Malo, il y a toujours de la
triche. Moi j'ai pas d'énergie, ils sont toujours libres, alors.
Pourquoi on fait, dans ce cas-là, pourquoi vous faites pas du contrôle?
La fiscalité ne doit
pas remplacer le contrôle. Si la règle est bien établie, vous dites, et s'il y a tricherie, contrôlons la tricherie.
Je suis d'accord avec vous sur l'article 2 de cette proposition. On donne aux maires des outils, parce que vu de l'État, vu de Paris, je ne vois pas comment je vais aller contrôler les Airbnb.
Bonne idée, les maires, vous avez raison. Excellent relais.
Mais en premier temps, il faut absolument faire un inventaire. Donc c'est tout ce qui a été mis en place dans certaines villes, avec des numéros d'enregistrement, des numéros d'identification. Et derrière, effectivement, on fera peut-être un état des lieux qui est nécessaire. Je le dis clairement, qui est nécessaire.
Peut-être avant la loi.
Du parc, donc c'est le premier temps, c'est peut-être ça. Effectivement,
mais
derrière, il faut aussi réguler. Je suis désolée, c'est une équité vis-à-vis de l'impôt, donc il faut aussi rééquilibrer la position.
Merci, Madame la députée.
Il y a une appli, il y a une appli Airbnb que les gens utilisent,
bien sûr.
Avec des, quand même, où tout est tout est répertorié, il sera assez facile parce que c'est pas normal. Il y a un nombre de jours limité, mais moi je vois que il y a des gens qui louent leur Airbnb
parce qu'après ils font de la main à la main
éternellement quoi, toute l'année, et que ça leur rapporte.
Alors attends, on va en parler avec Jean-Jacques.
On contrôle déjà et on voit où ça déconne.
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Jean-Jacques.
Faire les poches des Français.
Bonjour Jean-Jacques. Jean-Jacques de Meurthe-et-Moselle. Ça peut être un enfer le Airbnb ou pas alors?
Je suis mitigé sur la question, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que oui. Moi je suis responsable d'une conciergerie sur Nancy.
D'accord.
Et donc en fait le but de notre société c'est de gérer en fait tout ce que les propriétaires n'ont pas le temps de faire, à savoir la gestion des clés, le ménage, le réassort des produits et tout ce qui va avec. Donc l'avantage de passer par une conciergerie comme la nôtre, en fait, c'est qu'on va s'occuper vraiment de tout et de l'accueil des voyageurs notamment.
D'accord. Donc,
du coup, ça va éviter, entre guillemets, les gros problèmes.
Mais Jean-Jacques, les logements qui sont loués dans ce cas-là en Airbnb, ce sont pas des logements qui sont occupés par un propriétaire. C'est les propriétaires ont acheté un studio, un deux pièces pour en faire du Airbnb. Là, c'est quasiment de l'hôtel en fait, avec avec une conciergerie, des services, c'est de l'hôtellerie.
On peut dire ça. Honnêtement, on peut dire ça. Je suis d'accord avec vous.
Mais du coup, c'est un dévoiement
l'idée de départ.
De l'origine.
Voilà. Le problème vient de ça.
Un changement de destination.
Commençons les gens par rectifier ça.
Mais c'est-à-dire vous vous occupez du ménage, de l'entrée, de la sortie des clients, quoi, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et par rapport à ce que disait Sarah, où il y a beaucoup de fêtes et que les cautions, que Airbnb gérait mal les cautions, là, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que nous, en fait, en amont, on va faire un travail auprès du voyageur déjà pour stipuler toutes les règles de base, en l'accueillant, en essayant de faire un maximum bien les choses.
Parce que vous faites ce travail de conciergerie, tout le monde ne l'a pas.
Ouais, c'est vrai.
C'est souvent un boîtier, le concierge.
Ouais. Voilà.
Quand il y a les boîtiers, on est amené à ce genre de dérive. Et après, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Mais je suis d'accord avec vous. Après, c'est à l'image de la société, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens
bien
qui
sûr.
Vont dire.
Si c'est à l'image de la société, ça ne doit pas être facile tous les jours.
Vraiment pas.
Bordel. Dans le truc.
Mais Jean-Jacques, je vous remercie d'avoir donné votre exemple.
Merci, Jean-Jacques.
Vous êtes conciergerie Airbnb, mais j'ai vu aussi un maire d'une commune de Seine-et-Marne dont j'ai oublié le nom. Où on avait construit pas mal de logements neufs pour pouvoir loger tous ceux qui travaillent autour de Disney. Et finalement, il s'est retrouvé avec des paliers entiers, complètement vides, où il y a les boîtiers cadenas. Et tu as sur 2, 3, 4 étages, aucun logement. C'est juste du Airbnb. Et ce qu'il pensait être un poumon dynamique pour sa ville, en fait, ça n'est pas du tout.
En fait, c'est un investissement. Tu ne sais pas où placer ton pognon.
Allez, dans un instant.
Tu le places dans Airbnb.
Après, ça fait venir des touristes, donc ça fait venir quand même de l'argent à la ville.
Est-ce que c'est l'enfer pour
sur place.
Les voisins? C'est la question qu'on a posée. Est-ce qu'on a la petite consultation? Oui, 71%. Dans un instant, surtaxation des jets privés, la France fait partie des pays qui vont pousser le dossier.
Étonnant.
Aujourd'hui, lors de la réunion des ministres des Transports au Luxembourg.
RMC, jusqu'à midi.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules avec Sarah Salman, Willy Schran, Étienne Liebig. C'est l'heure du GG7 et match.
RMC.
GG7 et match.
Il y a de la fraise et de la sirop dans le.
Faire le tour de la Terre en jet privé. Faut-il surtaxer les jets privés? Vous vous souvenez l'année dernière, la polémique, c'était que les jets privés de certains milliardaires, notamment celui de Bernard Arnault et d'autres hommes d'affaires, étaient suivis par Flight Radar.
Quelle honte!
Et parfois, on s'apercevait que les trajets pouvaient être uniquement de 100 km ou même beaucoup moins. Et ces personnalités, ces riches, ces vedettes et autres avaient été montrés du doigt en disant sont les pollueurs de la planète pour leur propre plaisir égoïste. Du coup, la France, aujourd'hui, lors de la réunion des ministres des Transports du Luxembourg, va porter le dossier de la taxation des jets privés. Autriche, Pays-Bas, Belgique et l'Irlande y sont favorables. Alors, est-ce qu'il faut taxer les jets privés au nom de la préservation de la planète et leur faire payer ce caprice de milliardaire? Un homme dit oui, il est seul face au reste du monde, face aux nantis. à ceux qui côtoient les privilégiés de ce
Victor
pays.
Victor Liebig.
Allez, Étienne Liebig, tu dis oui, il faut taxer. Tu as 60 secondes, c'est parti. Laissez-le parler, s'il vous plaît.
Le débat, de toute façon, est un peu faussé, parce que dès qu'on n'est comme ça, qu'on veut faire passer l'intérêt collectif devant l'intérêt individuel de quelques-uns, on est immédiatement taxé de liberticide, de tuer contre la liberté individuelle, etc. Donc de fait, le débat, d'ailleurs, c'est toujours un jeu assez intéressant dialectiquement, parce que souvent ça se retourne. Mais bon, alors moi je pense qu'il y a effectivement un souci aujourd'hui. Il y a une augmentation de 55% ces trois dernières années du nombre de vols de jets privés. Il y a effectivement de plus en plus de riches qui vont accéder à ça. Il est temps de légiférer. Je ne sais pas comment. Il y a des pays qui avaient proposé l'interdiction de ça. La majorité des vols sont de moins de 500 km. Il y en a 33% qui sont sur des distances de moins de 100 km. Il faut savoir qu'un jet privé fonctionne à plus de la moitié du temps vide, c'est-à-dire pour des retours et pas pour des allées. Que la moyenne des personnes transportées, c'est 4,7 en moyenne. Et qu'un jet privé pollue 50 fois plus qu'un train. Et il pollue 14 fois plus, entre 14 et 50 fois plus qu'un avion normal, un avion de ligne. Alors, est-ce que véritablement tous les transports en jet privé sont nécessaires à ces gens-là, ou est-ce que certains peuvent être remplacés par des vols normaux, voire par du TGV ? Voilà, c'est simplement ça, en pensant d'abord à l'intérêt collectif plutôt qu'aux intérêts individuels. Voilà, ça ne va pas plus loin, mais je connais très bien la réaction.
Hein. Tu vas le gagner le match. Comme l'avion.
Ben oui, c'est
la réaction.
C'est amusant.
Elle est très bonne.
C'est pour ça qu'on aime bien Marshall aussi.
Oui, Maître Salman.
C'est vraiment un discours de bobo bien pensant qui mange des graines dans le marais. Voilà, c'est vraiment la tyrannie de la bien pensance qui dit qu'il faut penser collectif. Mais si tu avais un jet, tu serais bien content de le prendre, mon cher Étienne. Donc moi, je pense que toutes ces personnes qui se déplacent en jet ont raison de le faire, surtout quand c'est Monsieur Arnaud qui est créateur d'emplois et qui fait tourner l'économie. Et à force de mettre des interdictions dans tous les sens, la seule chose qu'on va réussir à faire, c'est de faire fuir toutes ces personnes qui sont créatrices d'emplois. Je le rappelle, il y a 10% des foyers fiscaux qui payent 70% des impôts, si on résume. Donc je pense sincèrement qu'il faut arrêter d'être dans l'interdiction, de mettre des normes dans tous les sens et laisser les gens vivre, et que la liberté individuelle doit primer sur le reste. Donc après toutes ces considérations écolo, etc., la France, c'est très peu par rapport à la Chine et l'Inde. Donc il faut laisser les gens vivre et faire ce qu'ils souhaitent professionnellement.
Monsieur Willy.
Oui, pour d'autres raisons, et je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Sarah ou même sur ce qu'a dit Étienne. Par principe, bon, je pense qu'il faut arrêter, on l'a encore vu il y a quelques instants, avec cette fiscalité, cette taxation. Celui qui a acheté effectivement un jet et qui en a les moyens, il l'a largement payé. Déjà, ça veut dire qu'il a les moyens, donc il a payé beaucoup d'impôts. Il a acheté son jet avec une TVA importante, on le sait. Donc ça veut dire que, je veux dire, il a déjà contribué plus que largement et plus que beaucoup d'autres, je dirais, à l'argent collectif et à l'intérêt public. À partir de là, faut-il encore remettre une couche, surtout au nom de l'écologie radicale, on en a tous.
Est-ce que c'est l'écologie radicale?
Si, parce que ils argumentent. Encore, on me dirait, dans le partage des richesses, ce serait un autre discours. On me dit, et on l'entend partout, c'est pour la transition écologique. Mais c'est l'État qui veut des transitions écologiques. Alors, maintenant, ils sont même pas capables, à partir de là, de dégager le budget qu'il faut pour une transition écologique. On irait de faire la cerise sur les gens qui contribuent déjà beaucoup. Moi, le jet privé, j'en aurais jamais. J'ai pas les moyens, je n'en aurais jamais.
On te le souhaite.
Mais je trouve, j'en aurais jamais, c'est trop tard.
Tu m'inviteras ?
Mais je trouve scandaleux aujourd'hui qu'on est soit dans l'interdiction, soit dans la répression fiscale systématiquement dans ce pays.
La culpabilisation.
Des gens qui ont de l'argent, c'est une honte en France aujourd'hui d'avoir un peu d'argent, d'avoir gagné sa vie et de faire vivre beaucoup d'autres gens avec cet argent.
Pour rejoindre ce que dit Étienne, est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. C'est au moment où on veut interdire ou taxer, les ventes de jets privés battent tous les records. Et les records ne sont pas battus en France ni en Europe. Ils sont battus dans les pays où il y a de plus en plus de gens qui ont
en
les moyens d'acheter des jets. C'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Brésil. Donc, alors, c'est vrai que c'est amusant. La France est toujours en première ligne pour inventer de nouveaux impôts.
Ah oui,
on est champion.
Dans le pays où il y en a le plus. Et c'est vrai que j'entends Clément Beaune qui a pris un peu ce combat. Les mêmes qui nous expliquent qu'il ne faut pas augmenter les impôts des Français. Mais taxer les jets, ça revient quand même à augmenter les impôts. Bon, donc, attends, je termine. Donc, c'est un peu paradoxal, d'autant plus.
Alors,
on a bien compris que ça va être difficile de défendre les jets, parce que les jets, c'est les riches.
Ah, c'est
donc,
les salauds de riches.
Il n'y aura pas des gilets jaunes.
Un pays où c'est une honte de gagner.
Il n'y aura pas des gilets jaunes de riches emmenés par Bernard.
Les gens sont jaloux.
Ce sera intéressant. Ton combat.
Mais ce serait intéressant, par exemple, de voir à quoi servent réellement ces jets. C'est-à-dire que.
Et les gens font ce qu'ils veulent.
Attends.
Mais attends, la liberté d'aller et venir, Étienne.
On est toujours en train de nous montrer des gens qui sont dans le sacrifice permanent. C'est-à-dire, ces gens riches sont dans un sacrifice permanent. C'est Jésus. En fait, ils ont pas gagné de l'argent pour, ils ont gagné de l'argent pour le service du bien public. Et on doit les remercier en permanence à genoux d'avoir la gentillesse de bien vouloir nous embaucher. D'ailleurs, quand on voit, par rapport à ce que t'as dit, excuse-moi, mais tu devrais regarder d'un peu plus près combien paye d'impôts par rapport à ce qui est gagné et les moyens d'échapper à cet impôt. Je pense que sont les champions du monde la fraude fiscale en France est absolument gigantesque. Ah bon. C'est plusieurs centaines de millions, de milliards.
Plusieurs donc, centaines de milliards, mais oui.
Mais la fraude, tu as les chiffres de la fraude fiscale. Je crois que c'est 37. Si.
Elle dit plusieurs centaines.
Non, mais 37 milliards. C'est bien au-dessus de tout. Non, mais d'accord.
Si vous le permettez, on va aller au 32-16. On a un loueur de jet avec nous. On a un loueur de jet, c'est Patrick.
Un loueur de jet.
Bonjour Patrick.
Bonjour à tous.
Vous nous appelez. Alors attendez.
J'appelle de l'aéroport de Nice.
Peut-on avoir un prix pour les grandes gueules? Parce qu'on connaît pas.
Ah oui, pourquoi pas, on sait jamais. Mais tout a un prix, t'as rien.
Alors Patrick, vous êtes donc loueur de jet privé sur l'aéroport de Nice. Combien vous en gérez, vous d'ailleurs? Tiens.
Ben nous, on fait à peu près 100-150 vols par an avec notre petite société de brokers. On est charter broker. Mm-hmm. On est intermédiaire entre le loueur et l'opérateur. On
met ça
en
coûte combien
la prestation. Ah ben, ça veut rien dire parce que chaque cas est un cas particulier.
Mais à Paris-Nice, par exemple.
Paris-Nice, ça va être entre 6 et 7 000 euros avec un petit avion, un petit jet. Après, bien sûr, le client doit revenir, donc ça va lui coûter 8-9 000. Mais c'est pas toujours la destination privilégiée par les gens. C'est souvent des transversales ou quand ils ont deux rendez-vous dans une journée. Au lieu de prendre trois avions commerciaux et de dormir à l'hôtel, ils font dormir.
C'est toujours pour le travail, jamais pour le loisir. Pourtant, les chiffres disent l'inverse.
Disons que les chiffres le disent l'été. Parce que la Côte d'Azur, c'est quand même la destination privilégiée dans le monde entier. Si on se prive des jets privés sur la Côte d'Azur, vous avez des centaines de personnes.
Il n'y a pas de Paris Saint-Tropez.
Les gens font ce qu'ils veulent, c'est pas une honte de prendre des loisirs avec son argent qu'on a gagné.
Paris Saint-Tropez, ce sont des avions spécifiés et qui sont certifiés pour se poser à Saint-Tropez. Donc tout le monde ne s'y pose pas. S'il pleut, on ne pourra pas s'y poser. Donc ce sont souvent des pilotes.
Mais vous dites qu'il y a un business important autour de ces jets.
Il y a un business qui. Quand vous arrivez à Nice, vous avez le handling. Il y a 60 personnes l'été qui travaillent sur l'agent qui réceptionne l'avion. Après, vous avez les gens, les chauffeurs qui attendent. Vous avez, ce sont pas des milliardaires, les chauffeurs. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui vont à une villa. Dans la villa, il y a des fleuristes, il y a des jardiniers, il y a des gouvernants, il y a des cuisiniers. Voilà. Quand ils viennent au Grand Prix de Monaco, c'est une économie. Je regrette qu'il y a des terrasses qui se louent. Il y a des centaines de personnes. Quand ils arrivent, c'est vrai que l'aéroport de Nice avait 1000 mouvements pendant le week-end, par jour. Et 50%, c'était des.
Mais c'est vrai que ça pollue. C'est vrai aussi, j'ai appris qu'il y avait une niche fiscale sur le kérosène.
Ils sont taxés en hors-taxe. Enfin, c'est du hors-taxe, le kérosène. C'est comme les bateaux. Voilà. C'est comme beaucoup de choses. Par contre, parce que c'est commercial. Après, le problème, quand on arrive à Nice, ou ailleurs, ou à Paris, qui sont des places fortes de jets privés, voilà, moi, c'est toute une économie. C'est comme quand on dit Neymar, il gagne 400 millions, mais le gars, il fait travailler 500 personnes autour, 600, en direct et en indirect. Après, voilà.
Et on les produit aussi, parce que
Neymar, il pollue pas.
Dassault, par exemple, produit
les jets. Je vais expliquer ce sont. C'est comme la Formule 1, on dit, ça pollue, il travaille sur des hybrides. L'hyperluxe est assez riche, l'industrie est assez riche pour pouvoir travailler d'ici 2035. Ils sont presque à dire qu'on aura une réduction d'empreinte carbone de 80%. Et ils travaillent dessus. Il y a du biocarburant qui arrive. Il y a de l'hybride qui va se mettre en place. Voilà. On l'a fait pour les voitures.
Donc en fait, si je comprends bien, le vrai futur, c'est ne tuons pas les jets. Attendons que le biocarburant arrive et ça réglera le problème.
Ils veulent pas l'interdire.
Et on parle pas des tankers.
Julien Bayou veut l'interdire.
Oui, mais là, en l'occurrence, on n'est pas sur ce sujet-là. On est sur la taxation.
les tankers.
C'est la première étape.
Qui polluent toutes les mers du monde avec des millions de containers qui viennent dans tous les sens. Parce que ça arrive de Chine, ça arrive de on ne sait pas où, mais ça ne pollue pas. Là.
Mais oui, c'est un véritable
Patrick,
souci.
Patrick, je vous remercie d'avoir été dans notre discussion.
Pourquoi on s'en prend au jet? Parce que
ils sont tous très objectifs, j'ai vu. Vous étiez déjà 4, vous auriez pu, vous n'aviez pas besoin d'un cinquième.
Non, mais Étienne,
je m'en fous de ça. Arrêtez d'être sensé. Vous croyez franchement? Non, mais il y a une espèce de certitude que quand on n'a pas de blé, on est envieux des gens qu'on n'en met pas du tout. J'en ai rien à branler. C'est juste une position écologiste. De base, basique, très basique.
Reconnaît, Étienne. Plus loin. Le jour où il y aura plus de riches,
on sera dans la merde.
Hein.
Mais on verra.
Alors, c'est les jets privés, oui ou non? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. On va regarder où vous en êtes. Allez, on envoie, s'il vous plaît. On en est à... Oui, 62%. C'est Étienne qui mène très largement. Et la discussion continue.
C'est anti-riche en France.
RMC. L'après-midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La France va faire partie des pays qui aujourd'hui à la réunion des ministres des Transports au Luxembourg va porter la demande d'interdiction ou de surtaxation plutôt des jets privés. Alors il y a des pays comme la France qui vont pousser, l'Irlande aussi, la Belgique, l'Autriche, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, le gouvernement est allé plus loin puisqu'il interdit les vols de nuit entre minuit et 6 heures du matin. Et il va interdire d'ici 2024 ou 2025 l'atterrissage aussi des jets privés sur l'aéroport d'Amsterdam, qui est l'aéroport de Schiphol, qui est un des plus grands d'Europe. Et ils ont estimé comme ça, ils allaient pouvoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Sauf qu'il y a des actions en justice qui vont être intentées, notamment par les propriétaires de compagnies aériennes, en disant que ça allait être un préjudice
économique. Sur la question des atterrissages, il y a en France aujourd'hui, donc à Orly et à Roissy, c'est pas la même législation. À Roissy, on peut atterrir très très tard.
De nuit, oui.
Et effectivement, les gens qui habitent là sont extrêmement gênés par les vols. Et par ailleurs, ils demandent, j'ai appris ça, donc cet atterrissage progressif et pas cet atterrissage par palier. Et donc, ce qui se passe à Orly, finalement, s'il se passe la même chose à Amsterdam, c'est pour le bien-être des gens qui habitent, puisque finalement, on pourrait considérer que la bagnole, que l'avion sont venus après les hommes. Et donc, les hommes ont une certaine priorité par rapport aux avions et aux... Ce ne serait pas un scandale de considérer que la voiture n'est pas prioritaire sur le piéton, par exemple.
Mobilité, c'est pas ce qui... Ça a fait l'histoire de l'humanité.
Mobilité, c'est... oui, ça a fait l'histoire de l'humanité, mais il y a moyen... C'est pas comme si on interdit aux gens de bouger. Il y a des tas de choix. On a le droit de prendre l'avion.
Dans un pays qui vieillit, on va tous être à pied et à vélo.
Alors, Christine,
on peut prendre l'avion. On n'est pas obligé d'avoir un jet privé.
Allô?
Bonjour Christine.
Bonjour Christine. Oui, bonjour.
Bonjour. Alors Christine, et vous, dans quelle équipe êtes-vous? Est-ce que vous soutenez Étienne
Enfin, l'interdiction, moi je trouve que les interdictions, c'est jamais vraiment...
La taxation alors.
Ou la solution, la taxation non plus, parce que de toute façon, ces gens-là sont milliardaires, donc résoudre un problème écologique, ça fait de l'argent, mais... Ça résout pas le problème, en fait. Donc, moi, je trouve qu'il faudrait que chaque citoyen soit égal devant ses responsabilités quant à la pollution qu'il émet. Et donc, à ce moment-là, moi, je me disais pourquoi on n'aurait pas chaque citoyen aurait un quota de points qu'on pourrait appeler des points carbone, qu'il aurait loisir de dépenser comme il veut, mais au bout d'un moment, quand il en a plus, il en a plus et il pollue plus.
Oui, mais quand Christine, c'est un patron qui se déplace dans ses activités professionnelles. Alors comment vous faites?
Il
prenait l'avion, c'est horrible.
Oui, mais d'accord, mais est-ce que vraiment, parce que cet homme-là, effectivement, je lui concède que cet homme-là crée des emplois, etc.
Et puis d'ailleurs, avec les impôts qu'il paye, ça permet de financer la transition écologique.
Mais on en revient à l'argent. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on génère de l'argent, on peut polluer. Mais ce qu'il faudrait, c'est dissocier l'argent et la pollution. Enfin, malheureusement, on peut dissocier. Mais
parce que produire, ça pollue.
Non, mais je crois qu'il n'y a pas une vraie...
Dans ce cas-là, Christine, il y a le même prétexte. Sous prétexte qu'on a de l'argent, on devrait contribuer à la transition écologique. Et au nom de quoi?
Mais
Non, j'ai pas dit
sous prétexte qu'on a de l'argent.
Le principe qui est établi là, c'est toujours le même. On trouve effectivement une conséquence qui est vraie ou pas vraie ou qui est discutable sur l'écologie, et on revient toujours aux fondamentaux de la République française. On taxe.
Oui, mais pourquoi
on taxe?
Essayons d'avoir. Allez, j'ouvre le débat, Mbaye Kitchen, là-dessus. On dit, vous avez dit tout à l'heure, les jets, ça pollue 12, 14, 15 fois plus.
50 fois plus.
Pour des questions de vitesse.
Pour des questions de consommation. Au nombre de personnes.
Est-ce qu'on ne peut pas restreindre?
Non, il faut laisser les gens
vivre professionnels.
La foire d'Empoigne et qu'on prenne un jet pour faire 100 km. C'est ce qui a été dit tout à l'heure.
Oui, non, mais ça, c'est la moitié des vols. Plus de la moitié des vols font moins de 500 km.
Non, mais c'est un peu caricatural.
Oui, parce qu'un tiers moins de 100 km, c'est quand même bizarre.
500 km.
500 km.
Non, mais j'ai dit. Il y a les jets privés, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a tous les vols commerciaux, tous ces gens. Moi, je suis un peu sur Instagram. Toutes ces stars et ces vedettes qui vont à Marrakech juste pour prendre 4 photos, qui vont faire des shootings.
C'est une erreur de voir que certains ont les moyens et aiment profiter de leurs moyens.
C'est le fantasme. On est jaloux.
Moi, j'ai envie d'aller faire un week-end à Marrakech.
Et bah, tant mieux.
Non, mais ce qu'elle veut dire, Christine, c'est que vous trouvez ça futile. C'est futile.
Si c'est leur argent, les gens font ce qu'ils veulent.
Donc ils peuvent payer un peu,
Christine.
Vous jugez tout à l'aune.
Mais oui. De la jalousie.
Mais non.
Où est-ce qu'ils m'inquiètent, Christine?
Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ça les dépasse. Je ne cherchais pas. Ça fait des années que j'essaye de leur expliquer qu'on n'est pas jaloux, mais ils ne veulent pas le comprendre. Pour eux,
c'est hargneux, c'est autre chose.
Mais non, pour eux, on est jaloux. On est jaloux parce que, voilà, mais on s'en fout.
Le problème de notre planète qui se dégrade ne se traduit pas entre ceux qui veulent prendre du plaisir et ceux qui ne veulent pas en prendre. Le problème, il n'est pas que
le plaisir, il est à plein d'endroits.
Non, mais je pense qu'il y a un vrai problème de prise de conscience.
Et ça m'intéresse pas, et j'aurai aucun plaisir là-dedans.
Mais vous savez quoi, c'est une vieille génération, en fait, ils sont foutus.
C'est la dérive qui va venir avec
ça. Mais non, mais en réalité, je pense qu'en France.
Etienne, on parle aujourd'hui de la fiscalité des jets privés. Vous avez vu cette proposition de PPL qui arrive où on devrait limiter à 4 vols par an par personne en avion. Vous avez vu ça?
Oui, c'est ça marche en commun.
Par vie. Oui, par vie.
Mais c'est honteux, ça.
Par vie, pardon. Il y a des gens qui commencent à avoir ces idées-là.
Willy, qu'il y ait des gens qui aient une conscience plus importante avec une forme d'excessif sur la question de la planète. Je veux bien l'entendre. Je pense qu'on a un véritable souci en France, et particulièrement en France par rapport à beaucoup d'autres pays qui nous entourent. On a un véritable problème de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on est, dans un refus. Oh, écoute, on est un des seuls pays dans lequel il y a encore des politiques qui pensent qu'on ne peut rien faire contre le climat, que tout est normal. Tu l'entends encore. Tu as encore des déclarations où on te dit, mais non, mais regardez, il faisait déjà cette température en 1922. Regardez, j'ai les températures de 1922, donc tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a pas de réchauffement climatique. On est le seul pays au monde.
Au lieu de faire ton comédien, non. Soyons factuels. Que représente la part de la pollution carbone de la France dans le monde?
Mais c'est pas ça. Je vais te répondre là-dessus.
Il faut être factuel.
Attends, je peux.
Parce que là, tu
mais si tu m'empêches de parler, je peux pas. Je vais te dire, le calcul ne s'opère pas sur ce qui. Non, il se perd sur la consommation. Il se perd sur. Si tu fais tout fabriquer en Chine, effectivement, tu fais baisser ton taux de carbone. Le problème, c'est pas celui qui fabrique, c'est celui qui consomme.
Prends ce chiffre-là.
Eh bien, on est exactement à l'égalité avec les autres pays.
On n'est pas pire que les riches.
Mais non, je dis pas. Non, je dis qu'il n'y a pas de prise de conscience. Mais je dis que des gens comme toi, vous refusez cette réalité.
Mais on refuse rien du tout.
Parce que toi, tu mêles tes idées gauchistes.
Mais pas du tout, je m'en fous.
Écologique. Si, tu es anticapitaliste.
Non, tu te trompes.
Laisse-moi terminer.
Comme prétexte.
Toi, tu penses que effectivement, grâce à l'écologie, tu vas imposer ta pensée anticapitaliste. Moi, je pense que on s'en sortira justement par le capital, qu'on aura besoin de l'argent pour la transition écologique, et que c'est grâce à l'innovation, le progrès technologique, qu'on va s'en sortir. Voilà, c'est la différence entre nous. Toi, tu tu es quelqu'un de gauche et tu penses que grâce à l'écologie, tu vas enfin faire passer tes idées anticapitalistes,
etc. Mais pas du tout. Moi, je veux juste que la planète soit préservée au maximum.
Moi, je pense que c'est pas la solution. Moi, on a le droit de pas être d'accord avec toi.
Moi, je préfère le train.
Je préfère que toi, tu es dans la morale.
Je préfère le train à la bagnole. Je préfère le train à l'avion.
Mais c'est n'impose pas ça aux autres.
C'est un problème de gauchisme.
Regardez ce que je fais, faites comme moi.
Non, si vous faites pas comme moi, c'est que vous respectez pas l'intérêt collectif.
Ça s'appelle jeu à morale.
Je pense qu'il y a des tas de, il y a d'autres concepts dans lesquels on exige des gens, on demande aux gens de conduire à telle vitesse parce que c'est un danger.
Dans certains régimes, on a fait ça, effectivement.
Il y a des tas de,
attends, excuse-moi.
Ça s'appelle le totalitarisme.
Totalitarisme vert.
Il y a des tas de domaines dans lesquels.
Dictature écologique.
Dans des tas de domaines dans lesquels on a des lois.
C'est fini.
Et on oblige les gens
à ne pas être dans la liberté individuelle.
Hein. Alors, sinon, on conduirait tous à 250 à l'heure.
La surtaxation des jets privés, oui ou non ? Parce que ce sera au centre, notamment, de la réunion du sommet des ministres des Transports européens. Oui ou non, oui ou non, oui ou non ? Résultat final, s'il vous plaît. Oui.
Vous êtes tellement loin de la vraie France, mais pas
non,
venir.
Mais...
Vous faites mal.
62%.
Vous faites mal, heureusement, merci.
Étienne qui a gagné l'argent.
Vous êtes tellement loin de la réalité.
Si on offrait un jet à tous les Français, ils seraient à 100% contre la taxe.
100%, ça fait tout de suite. Il n'y a pas de problème.
Allez, on se retrouve demain. Demain, nous serons avec Marianne Soubré, l'avocate, Mehdi Ghezard, le chef d'entreprise, cheminot et syndicaliste Bruno Poncet. Et nous recevrons Olivia Grégoire, la ministre déléguée en charge des TPE, des PME. Avec elle, nous pourrons reparler justement de son plan pour les saisonniers, de l'inflation qui baisse, mais on va avoir quand même un été où on devrait souffrir au niveau des prix. Puis on parlera des tarifs de l'électricité, bien sûr, et du gaz. Bonjour Estelle Denis.
Bonjour Alain, bonjour les GG. Écoutez, nous on va parler d'Emmanuel Macron. Il a renouvelé hier son soutien à Elisabeth Borne après l'avoir vertement tensé lors du Conseil des ministres. Est-ce qu'il faut vraiment y croire à ce soutien ? Est-ce que la Première ministre sera encore là après le 14 juillet ? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. On va parler de la ville de Grasse, tiens, qui augmente le prix de l'eau cet été pour sensibiliser ses habitants et les touristes à la sécheresse. Bonne ou mauvaise idée ? Et puis enfin, nuisance, quartier qui se vide, manque de logement, Airbnb est-il devenu un fléau ? Vos réactions, vos témoignages au 32-16, on vous attend.
Amusez-vous bien avec Estelle et nous on se retrouve demain 9h.